France Inter.
C'est que sur les reproches, vous, hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Alors cette semaine, Gwenaëlle, vous nous offrez une petite suite à votre chronique de la semaine dernière.
En effet, je m'offre cette petite coquetterie. Previously, dans ma vie de parent.
Précédemment.
Je vous avais parlé des 100 premiers jours de bébé. Donc période durant laquelle il ne servait à rien de tenter de réguler un bébé tant sur le plan de la nourriture que du sommeil. J'avoue qu'à cette occasion, j'avais un peu fait mousser mon côté maman cool et attentive, capable de puiser méchamment dans ses réserves pour le bien de mon petit.
Et aujourd'hui, vous allez nous dévoiler une autre facette de votre personnalité.
Oui, oui, tout à fait, parce que si pendant 100 jours, j'ai été cool, je peux vous dire qu'à 101 jours, la fête était terminée à la maison. Et côté sommeil, nous avons mis en place tout un paquet de redoutables stratagèmes.
À commencer par la technique observation-réaction, qu'est-ce que c'est ?
Ah oui, cette fois, je crois qu'une de mes amies en visite chez moi m'a littéralement prise pour une allumée. Mais j'assume et en bonne camarade, je partage. En gros, à partir de 3 mois, je me suis transformée en maniaque de la grille d'observation. Alors si, je vous jure, pour mettre en pratique l'idée qu'il fallait d'abord observer son enfant pour comprendre son rythme, j'ai créé un petit tableau genre Excel composé de plein de petites cases horaires que j'ai coloriées scrupuleusement pendant 2 semaines. Alors en vert, les moments d'éveil, en rouge, les gros pleurs, en jaune, les heures de faim et en noir, les signes de fatigue et de sommeil. Alors bénéfice numéro 1 de cette technique, ceci occupe très bien une journée de congé maternité. C'est parfait. Bénéfice numéro 2, oh magie. Derrière ce qui m'apparaissait jusqu'alors comme un chaos absolu, se dessinait en fait une ébauche de rythme assez régulier. Ne me restait plus ensuite qu'à resserrer ces phases autour d'horaires relativement fixes et hop, bonheur, satisfaction, joie, j'étais à nouveau redevenu à peu près maître de mon temps.
Alors ça fonctionne le jour, mais la nuit?
Eh oui, la nuit, l'angoisse du jeune parent. Et pour cause, quand j'ai croisé mon collègue Martin cette semaine, qui s'endormait à moitié sur la photocopieuse, tant il était au bout de sa vie, rapport à son jumeau qui se réveille 5, 6, 7 fois par nuit, je me suis souvenu. Je me suis souvenu que le pire dans les réveils nocturnes, c'était pas les réveils. Ce qui rend fou, c'est ce côté tellement aléatoire, imprévisible. Parce qu'effectivement, on dit faire ses nuits. Mais en fait, ça veut rien dire avoir un paquet de temps entre la tétine tombée, que vous rêvez de lui scotcher sur la bouche, les dents qui poussent, pour laquelle vous tentez tour à tour les capsules de camélia, les massages au dos aux dents, le fameux collier d'ambre auquel vous croyez dur comme fer, avant de finir sur les doses maximales de pipettes de doliprane pour éviter de vous faire tuer par les voisins. Et puis après les dents, bah, y a le lit mouillé. Mais bon, alors ça, je vous avoue qu'on a un petit peu triché, nous. Ça a été couche de nuit jusqu'à ce que nos bobins nous apportent la preuve irréfutable au moins 7 jours de suite que la couche était bien sèche le matin. Et là, ok chérie, top là, t'es un chef. Tu peux dormir cul nu sans réveiller papa-maman. On a alors, un petit peu grugé.
Alors que faire pour retrouver un sommeil paisible?
Bah, franchement, si je savais, je vous livrerais mon secret. Hein, les personnes ici sont bien mieux placées que moi. Ce qui est sûr, c'est que dans bien des domaines de parentalité, quand on sent vraiment nos capacités mises à rude épreuve, je pense qu'il faut se faire aider. Après, je peux quand même tenter de partager mes quelques remèdes, qui valent ce qu'ils valent, mais qui, chance ou preuve de leur efficacité, ont plutôt fait leur preuve, effectivement. Donc, par exemple, dans les moments de grande crise, faire une nuit sur deux avec votre conjoint ou votre conjointe. Boule caisse à l'appui. Bon, ok, vous allez passer une nuit pourrie, mais finalement pas plus pourrie que les autres. Et puis au moins, vous savez que vous pourrez récupérer la nuit d'après. Et si vous êtes parent solo, je dirais pourquoi ne pas faire l'appel à un ami. Juste pour une nuit, juste histoire de récupérer, de souffler. Deuxièmement, la force du rituel, on en a parlé. Les enfants sont des petits vieux, ils aiment la régularité. Pipi, les dents, une histoire, pas 20, une, allez deux si vous êtes fait avoir, et au lit. Et pour ne pas laisser vous faire avoir par le coucher qui tire en longueur, trouvez une vraie bonne motivation pour votre temps des grands. Bref, soyez vous-même super motivé par cette séparation du soir.
Dernier petit conseil.
Alors là, je vais me faire allumer, mais j'y vais, oui. Conseil alors ultra précieux de ma marraine adorée. Au lit et après, vite à vie. En gros, rien ne sert de s'acharner sur le fait que les enfants dorment du moment qu'ils restent dans leur chambre. Et sans un cran, bien sûr. Ils peuvent regarder un livre, jouer avec leur doudou, faire ce qu'ils veulent dans leur lit. Mais je pense effectivement que s'endormir seul et donc se réendormir seul suite à un réveil, ça s'apprend. Évitons donc de nous rendre indispensables à leur endormissement. Pardon. Et puis enfin, allez, je l'attends, mais si vous êtes au bout de votre vie, ce bon vieux dicton auquel j'ose dire que nous avons parfois eu recours... Il n'y a pas d'enfants qui pleurent, il n'y a que des portes mal fermées.
Une chronique testée et approuvée par nos invités. Ma vie de parent à podcaster sur l'appli France Inter et à partager sur les réseaux sociaux.